Chapitre 7, la fille et la mère, où l'abbé Fortier exécute à l'endroit de la mère Billot la menace qu'il avait faite à la tante Angélique et voit qu'il n'est pas toujours si facile qu'on le croit de tenir la parole donnée. Pendant ce temps, Catherine poursuivait son chemin. En sortant de la ruelle, elle avait pris à gauche, suivit la rue de Lormay et au bout de cette rue avait, par une sente tracée à travers champs, rejoint le chemin de Pisseleu. Tout était un souvenir douloureux pour Catherine le long de ce chemin, et d'abord ce fut ce petit pont où Isidore lui avait dit adieu et où elle était restée évanouie jusqu'au moment où Pitou l'avait retrouvée froide et glacée. Puis en approchant de la ferme, le saule creux où Isidore cachait ses lettres. Puis en se rapprochant encore, cette petite fenêtre par laquelle Isidore entrait chez elle et où le jeune homme avait été ajusté par Billot, cette nuit où, par bonheur, le fusil du fermier avait fait long feu. Et puis enfin, en face de la grande porte de la ferme, cette route de Boursonne que Catherine avait si souvent parcourue et qu'elle connaissait si bien, la route par laquelle venait Isidore. Que de fois la nuit, accoudée à cette fenêtre, les yeux fixés sur la route, elle l'avait attendue, haletante, et en apercevant dans l'ombre son amant, toujours exact, toujours fidèle, sentit sa poitrine se desserrer, puis ouvert les deux bras à sa rencontre. Aujourd'hui, il était mort. Mais au moins, ses deux bras réunis sur sa poitrine y pressaient son enfant. Que disaient tous ces gens de son déshonneur, de sa honte? Un si bel enfant pouvait-il jamais être pour une mère une honte ou un déshonneur? Aussi entra-t-elle rapidement et sans crainte dans la ferme. Un gros chien aboya sur son passage, puis tout à coup, reconnaissant sa jeune maîtresse, il s'approcha d'elle de toute la longueur de sa chaîne et se dressa, les pattes en l'air, tout en poussant de petits cris joyeux. Aux abois du chien, un homme parut sur la porte, venant voir qui en était la cause. « Mademoiselle Catherine ! » s'écria-t-il. « Père Clouis, » dit Catherine à son tour. « Ah, soyez la bienvenue, ma chère demoiselle, » dit le vieux garde. « La maison a bien besoin de votre présence, allez. » « Et ma pauvre mère ?» demanda Catherine. « Hélas, ni mieux ni pis, plutôt pis que mieux. Elle s'éteint, pauvre chère femme. »« Et où est-elle ? » ?»« Dans sa chambre. »« Toute seule ?»« Non, non, non. Ah, je n'aurais pas permis cela. Dame, il faut m'excuser, mademoiselle Catherine. En votre absence à tous, j'ai un peu fait le maître ici. Le temps que vous avez passé dans ma pauvre hutte, ça m'a fait un peu de famille. Je vous aimais tant, vous et ce pauvre monsieur Isidore. » « Vous avez su, » dit Catherine, essuyant deux larmes. « Oui, oui, tué pour la reine, comme monsieur Georges. Enfin, mademoiselle, que voulez-vous? Il vous a laissé ce bel enfant, n'est-ce pas? Il faut pleurer le père, mais sourire au fils. » « Merci, père Clouis, » dit Catherine, en tendant sa main au vieux garde. « Mais ma mère, elle est là, dans sa chambre, comme je vous ai dit, avec madame Clément, la même garde-malade qui vous a soigné. » Et, demanda Catherine, hésitant, a-t-elle encore sa connaissance, pauvre mère? Il y a des fois qu'on le croirait, dit le père Louis, c'est quand on prononce votre nom. Ah, cela, c'est le grand moyen. Il a agi jusqu'à avant-hier. Ce n'est que depuis avant-hier qu'elle ne donne plus signe de connaissance, même lorsqu'on parle de vous. Entrons, entrons, père Louis, dit Catherine. Entrez, mademoiselle, fit le vieux garde, en ouvrant la porte de la chambre de madame Billot. Catherine plongea son regard dans la chambre. Sa mère, couchée dans son lit, au rideau de serge verte, éclairée par une de ses lampes à trois becs, comme nous en voyons encore aujourd'hui dans les fermes, était gardée, ainsi que l'avait dit le père Clouis, par madame Clément. Celle-ci, assise dans un grand fauteuil, roupillée, dans cet état de somnolence particulier aux gardes malades et qui est un milieu somnambulique entre la veille et le sommeil. La pauvre mère Billot ne semblait pas changer, seulement son teint était devenu d'une pâleur d'ivoire. On eût dit qu'elle dormait. « ma mère !» cria Catherine en se précipitant sur le lit. La malade ouvrit les yeux, fit un mouvement de tête vers Catherine, un éclair d'intelligence brilla dans son regard. Ses lèvres balbutièrent des sons inintelligibles, n'atteignant même pas à la valeur de mots sans suite. Sa main se souleva, cherchant à compléter par le toucher l'essence presque éteinte de l'ouïe et de la vue, mais cet effort avorta, le mouvement s'éteignit, l'œil se referma, le bras pesa comme un corps inerte sur la tête de Catherine, à genoux devant le lit de sa mère, et la malade rentra dans l'immobilité dont elle était momentanément sortie à la secousse galvanique que lui avait imprimée la voix de sa fille. Les deux léthargies du père et de la mère avaient, comme deux éclairs partant de deux horizons opposés, jailli deux sentiments tout contraires. Le père Billot était sorti de son évanouissement pour repousser Catherine loin de lui. La mère Billot était sortie de sa torpeur pour attirer Catherine à elle. L'arrivée de Catherine avait produit une révolution dans la ferme. C'était Billot qu'on attendait, et non sa fille. Catherine raconta l'accident arrivé à Billot et dit comment, à Paris, le mari était aussi près de la mort que la femme l'était à Pisseleu. Seulement, il était évident que chacun des deux moribonds suivait une voie différente. Billot allait de la mort à la vie, sa femme allait de la vie à la mort. Catherine rentra dans sa chambre de jeune fille. Il y avait bien des larmes pour elle dans les souvenirs que lui rappelait cette petite chambre où elle avait passé par les beaux rêves de l'enfant, par les passions brûlantes de la jeune fille, et où elle revenait avec le cœur brisé de la veuve. Dès ce moment, au reste, Catherine reprit dans la maison en désordre toute l'autorité que son père lui avait concédée un jour au détriment de sa mère. Le père Clouis, remercié et récompensé, reprit le chemin de son terrier, comme il appelait la hutte de la Pierre Cloise. Le lendemain, le docteur Rénal vint à la ferme. Il y venait tous les deux jours par un sentiment de conscience plutôt que par un sentiment d'espoir. Il savait très bien qu'il n'y avait rien à faire et que cette vie qui s'éteignait comme fait une lampe qui use un reste d'huile ne pouvait être sauvée par aucun effort humain. Il fut tout joyeux de trouver la jeune fille arrivée. Il aborda la grande question qu'il n'eût osé débattre avec Billot, celle des sacrements. Billot, on le sait, était un voltairien enragé. Ce n'était pas que le docteur Rénal fût d'une dévotion exemplaire, non, tout au contraire. À l'esprit du temps, il joignait l'esprit de la science. Or, si le temps n'en était encore qu'au doute, la science en était déjà à la négation. Cependant, le docteur Rénal, dans les circonstances analogues à celles où il se trouvait, regardait comme un devoir d'avertir les parents. Les parents pieux faisaient leur profit de l'avertissement et envoyaient chercher le prêtre. Les parents impies ordonnaient, si le prêtre se présentait, qu'on lui fermât la porte au nez. Catherine était pieuse. Elle ignorait les dissentiments qui avaient eu lieu entre Billot et l'abbé Fortier, ou plutôt elle n'y attachait pas grande importance. Elle chargea Madame Clément de se rendre chez l'abbé Fortier et de le prier de venir apporter les derniers sacrements à sa mère. Pisseleu, étant un trop petit hameau pour avoir son église et son curé à part, relevait de Villers-Cotterêts. C'était même au cimetière de Villers-Cotterêts qu'on enterrait les morts de Pisseleu. Une heure après, la sonnette du viatique tintait à la porte de la ferme. Le Saint-Sacrement fut reçu à deux genoux par Catherine. Mais à peine l'abbé Fortier fut-il entré dans la chambre de la malade, à peine se fut-il aperçu que celle pour laquelle on l'avait appelé était sans parole, sans regard, sans voix, qu'il déclara qu'il ne donnait l'absolution qu'aux gens qui pouvaient se confesser, et quelque insistance qu'on lui fit, il remporta le viatique. L'abbé Fortier était un prêtre de l'école sombre et terrible. Il eût été Saint-Dominique en Espagne et Valverde au Mexique. Il n'y avait point à s'adresser à un autre que lui. Pisseleu, nous l'avons dit, relevait de sa paroisse et nul prêtre des environs n'eût osé empiéter sur ses droits. Catherine était un cœur pieux et tendre, mais en même temps plein de raison. Elle ne prit du refus de l'abbé Fortier que le souci qu'elle en devait prendre, espérant que Dieu serait plus indulgent en faveur de la pauvre mourante que ne l'était son ministre. Et puis elle continua d'accomplir ses devoirs de fille envers sa mère, ses devoirs de mère envers son enfant, se partageant tout entière entre cette jeune âme qui entrait dans la vie et cette âme fatiguée qui allait en sortir. Pendant 8 jours et 8 nuits, elle ne quitta le lit de sa mère que pour aller au berceau de son enfant. Dans la nuit du 8e au 9e jour, tandis que la jeune fille veillait au chevet du lit de la mourante, laquelle, pareille à une barque qui sombre et s'enfonce de plus en plus dans la mer, s'engloutissait peu à peu dans l'éternité, la porte de la chambre de Madame Billot s'ouvrit et Pitou parut sur le seuil. Il arrivait de Paris, d'où il était parti le matin, selon son habitude. En le voyant, Catherine tressaillit. Un instant, elle craignit que son père ne fût mort. Mais la physionomie de Pitou, sans être précisément gaie, n'était cependant point celle d'un homme qui apporte une funèbre nouvelle. En effet, Billot allait de mieux en mieux. Depuis 4 ou 5 jours, le docteur avait répondu de lui, et le matin du départ de Pitou, le malade avait dû être transporté de l'hôpital du Gros Caillou chez le docteur. Du moment que Billot avait cessé d'être en danger, Pitou avait déclaré sa résolution formelle de retourner à Pisseleu. Ce n'était plus pour Billot qu'il craignait, c'était pour Catherine. Pitou avait prévu le moment où l'on annoncerait à Billot ce qu'on n'avait point voulu lui annoncer encore, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouvait sa femme. Sa conviction était qu'à ce moment-là, si faible qu'il fût, Billot partirait pour Villers-Cotterêts, et qu'arriverait-il s'il trouvait Catherine à la ferme? Le docteur Gilbert n'avait point caché à Pitou l'effet qu'avait produit sur le blessé l'entrée de Catherine et sa station d'un instant près du lit du malade. Il était évident que cette vision était restée au fond de son esprit, comme au fond de la mémoire reste, quand on se réveille, le souvenir d'un mauvais rêve. À mesure que sa raison était revenue, le blessé avait jeté autour de lui des regards qui avaient peu à peu passé de l'inquiétude à la haine. Sans doute s'attendait-il à voir d'un moment à l'autre la vision fatale reparaître. Au reste, il n'en avait pas dit un mot, pas une seule fois il n'avait prononcé le nom de Catherine. Mais le docteur Gilbert était un trop profond observateur pour n'avoir pas tout deviné, tout lu. En conséquence, aussitôt Billot convalescent, il avait expédié Pitou à la ferme. C'était à lui d'en éloigner Catherine. Pitou aurait, pour arriver à ce résultat, 2 ou 3 jours devant lui, le docteur ne voulant pas, avant 2 ou 3 jours encore, risquer d'annoncer au convalescent la mauvaise nouvelle qu'avait apportée Pitou. Celui-ci fit part de ses craintes à Catherine avec toute l'angoisse que le caractère de Billot lui inspirait à lui-même. Mais Catherine déclara que son père dût-il la tuer au chevet du lit de la mourante, elle ne s'éloignerait pas avant d'avoir fermé les yeux de sa mère. Pitou gémit profondément de cette détermination, mais il ne trouva pas un mot pour la combattre. Il se tint donc là, prêt à s'interposer en cas de besoin entre le père et la fille. 2 jours et 2 nuits s'écoulèrent encore. Pendant ces 2 jours et ces 2 nuits, la vie de la mère Billot sembla s'envoler, souffle à souffle. Depuis 10 jours déjà, la malade ne mangeait plus. On ne la soutenait qu'en lui introduisant de temps en temps une cuillère de sirop dans la bouche. On n'aurait pas cru qu'un corps pût vivre avec un pareil soutien. Il est vrai que ce pauvre corps vivait si peu. Pendant la nuit du 10e au 11e jour, au moment où tout souffle semblait éteint chez elle, la malade parut se ranimer, les bras firent quelques mouvements, les lèvres s'agitèrent, les yeux s'ouvrirent, grands et fixes. « ma mère !» cria Catherine, et elle se précipita vers la porte pour aller chercher son enfant. On eût dit que Catherine tirait l'âme de sa mère avec elle. Lorsqu'elle entra, tenant le petit Isidore entre ses bras, la mourante avait fait un mouvement pour se tourner du côté de la porte. Les yeux étaient restés tout grands ouverts et fixes. Au retour de la jeune fille, les yeux jetèrent un éclair, la bouche un cri, les bras s'étendirent. Catherine tomba à genoux avec son enfant devant le lit de sa mère. Alors un phénomène étrange s'opéra. La mère Billot se souleva sur son oreiller, étendit lentement les 2 bras au-dessus de la tête de Catherine et de son fils, puis, après un effort pareil à celui du jeune fils de Crésus, « Mes enfants, dit-elle, je vous bénis. » Et elle retomba sur l'oreiller, ses bras s'affaissèrent, sa voix s'éteignit, elle était morte. Ses yeux seuls étaient restés ouverts, comme si la pauvre femme, ne l'ayant pas assez vue de son vivant, eût voulu encore regarder sa fille de l'autre côté du tombeau. Catherine ferma pieusement les yeux de sa mère avec la main d'abord, puis ensuite avec les lèvres. Madame Clément avait depuis longtemps prévu cette heure suprême et avait d'avance acheté 2 cierges. Tandis que Catherine, toute ruisselante de larmes, reportait dans sa chambre son enfant qui pleurait et l'endormait en lui donnant le sein, Madame Clément allumait les 2 cierges aux 2 côtés du chevet du lit, croisait les 2 mains de la morte sur sa poitrine, lui mettait un crucifix entre les mains et plaçait sur la chaise un bol plein d'eau bénite avec une branche de buis du dernier dimanche des rameaux. Lorsque Catherine rentra, elle n'eut plus qu'à se mettre à genoux près du lit de sa mère, son livre de prière à la main. Pendant ce temps, Pitou se chargeait des autres détails funèbres, c'est-à-dire que nous entallés chez l'abbé Fortier, avec lequel, on s'en souvient, il était en délicatesse, il alla chez le sacristain pour commander la messe mortuaire, chez les porteurs pour les prévenir de l'heure à laquelle il devait enlever le cercueil, chez le fossoyeur pour lui dire de creuser la fosse. Puis de là, il alla à Aramon avertir son lieutenant, son sous-lieutenant et les 31 hommes de garde nationale, que l'enterrement de Madame Billot avait lieu le lendemain à 11 heures du matin. Comme la mère Billot n'avait de son vivant, pauvre femme, occupé ni aucune fonction publique, ni aucun grade dans la garde nationale ou dans l'armée, la communication de Pitou à l'endroit de ses hommes fut officieuse et non officielle, bien entendu. Ce fut une invitation d'assister à l'inhumation et non un ordre. Mais on savait trop ce qu'avait fait Billot pour cette révolution qui tournait toutes les têtes et enflammait tous les cœurs. On savait trop le danger qu'en ce moment même courait encore Billot, couché sur son lit de douleur, blessé qu'il avait été en défendant la cause sainte, pour ne pas regarder l'invitation comme un ordre. Toute la garde nationale d'Aramon promit donc à son chef de se trouver volontairement et instantanément en armes le lendemain à 11 heures précises à la maison mortuaire. Le soir, Pitou était de retour à la ferme. À la porte, il trouva le menuisier qui apportait la bière sur son épaule. Pitou avait instinctivement toutes les délicatesses du cœur que l'on trouve si rarement chez les paysans et même chez les gens du monde. Il fit cacher le menuisier et son cercueil dans l'écurie, et pour épargner à Catherine la vue de la funèbre boîte, le bruit terrible du marteau, il entra seul. Catherine priait au pied du lit de sa mère. Le cadavre, par les soins pieux des deux femmes, avait été lavé et cousu dans son linceul. Pitou rendit compte à Catherine de l'emploi de sa journée et l'invita à aller prendre un peu l'air, mais Catherine voulait remplir ses devoirs jusqu'au bout, elle refusa. « Cela fera du mal à votre cher petit Isidore de ne pas sortir, » dit Pitou. « Emportez-le et faites-lui prendre l'air, monsieur Pitou. » Il fallait que Catherine eût bien grande confiance dans Pitou pour lui confier son enfant, ne fût-ce que 5 minutes. Pitou sortit comme pour obéir, mais au bout de 5 minutes, il revint. « Il ne veut pas sortir avec moi, » dit-il. « Il pleure. » Et en effet, par les portes ouvertes, Catherine entendit les cris de son enfant. Elle baisa le front du cadavre, dont, à travers la toile, on distinguait encore la forme et presque les traits, et partagée entre ces deux sentiments de fille et de mère, elle quitta sa mère pour aller à son enfant. Le petit Isidore pleurait, en effet. Catherine le prit dans ses bras, et, suivant Pitou, sortit de la ferme. Derrière elle, le menuisier et sa bière y entraient. Et Pitou voulait éloigner Catherine pendant une demi-heure à peu près. Comme au hasard, il la conduisit sur le chemin de Boursonne. Ce chemin était si plein de souvenirs pour la pauvre enfant qu'elle y fit une demi-lieue sans dire un mot à Pitou, écoutant les différentes voix de son cœur et leur répondant silencieusement comme elle parlait. Quand Pitou crut la besogne funéraire terminée, « Mademoiselle Catherine, dit-il, si nous revenions à la ferme, » Catherine sortit de ses pensées comme d'un rêve. « Oui, dit-elle, vous êtes bien bon, mon cher Pitou. » Et elle reprit le chemin de Pisseleu. Au retour, Madame Clément fit de la tête signe à Pitou que la funèbre opération était achevée. Catherine entra dans sa chambre pour coucher le petit Isidore. Ce soin maternel accompli, elle voulut aller reprendre sa place au chevet de la morte. Mais sur le seuil de la chambre, elle trouva Pitou. « Inutile, mademoiselle Catherine, lui dit celui-ci, tout est terminé. »« Comment tout est terminé ?»« Oui, en notre absence, mademoiselle... » Pitou hésita. « En notre absence, le menuisier... »« Ah, voilà pourquoi vous avez insisté pour que je sortisse. Je comprends, bon Pitou. » Et Pitou, pour sa récompense, reçut de Catherine un regard reconnaissant. « Une dernière prière, ajouta la jeune fille, et je reviens. » Catherine marcha droit à la chambre de sa mère et y entra. Pitou la suivait sur la pointe du pied, mais il s'arrêta sur le seuil. La bière était déposée sur 2 chaises au milieu de la chambre. À cette vue, Catherine s'arrêta en tressaillant et de nouvelles larmes coulèrent de ses yeux. Puis elle alla s'agenouiller devant le cercueil, appuyant aux chaînes son front pâli par la fatigue et la douleur. sur la voie douloureuse qui conduit le mort de son lit d'agonie au tombeau, sa demeure éternelle, les vivants qui le suivent se heurtent à chaque instant à quelques nouveaux détails qui semblent destinés à faire jaillir des cœurs endoloris jusqu'à leurs dernières larmes. La prière fut longue. Catherine ne pouvait s'arracher d'auprès du cercueil. Elle comprenait bien, la pauvre fille, qu'elle n'avait plus depuis la mort d'Isidore que deux amis sur cette terre, sa mère et Pitou. Sa mère venait de la bénir et de lui dire adieu. Sa mère, dans le cercueil aujourd'hui, serait dans la tombe demain. Pitou lui restait seul. On ne quitte pas sans peine son avant-dernier ami quand cet avant-dernier ami est une mère. Pitou sentit bien qu'il lui fallait venir en aide à Catherine. Il entra, et voyant ses paroles inutiles, il essaya de soulever la jeune fille par-dessous les bras. « Encore une prière, monsieur Pitou, une seule. Vous vous rendez malade, mademoiselle Catherine. » « Après, » demanda Catherine. « Alors je vais chercher une nourrice pour monsieur Isidore. » « Ah, tu as raison, Pitou, » dit la jeune fille. « Mon Dieu, que tu es bon, Pitou, mon Dieu, que je t'aime. » Pitou chancela et faillit tomber à la renverse. Il alla à reculons, s'appuyer près de la porte contre la muraille, et des larmes silencieuses, presque de joie, coulèrent sur ses joues. Catherine ne venait-elle pas de lui dire qu'elle l'aimait? Pitou ne s'abusait point sur la façon dont l'aimait Catherine, mais de quelque façon que Catherine l'aimât, c'était beaucoup pour lui. Sa prière finie, Catherine, comme elle l'avait promis à Pitou, se leva et vint d'un pas lent s'appuyer à l'épaule du jeune homme. Pitou passa son bras autour de la taille de Catherine pour l'entraîner. Celle-ci se laissa faire, mais avant de franchir le seuil, tournant la tête par-dessus l'épaule de Pitou et jetant un dernier regard sur le cercueil, tristement éclairé par les deux cierges, « Adieu, mère, une dernière fois, adieu, » dit-elle, et elle sortit. À la porte de la chambre de Catherine, et au moment où celle-ci allait y entrer, Pitou l'arrêta. Catherine commençait à si bien connaître Pitou qu'elle comprit que Pitou avait quelque chose à lui dire. « Eh bien, » demanda-t-elle. « Bien, » balbutia Pitou un peu embarrassé, « ne trouvez-vous pas, mademoiselle Catherine, que le moment serait venu de quitter la ferme ?»« Je ne quitterai la ferme que quand ma mère elle-même l'aura quittée, » répondit la jeune fille. Catherine avait dit ces mots avec une telle fermeté que Pitou vit bien que c'était une résolution irrévocable. « Et quand vous quitterez la ferme, dit Pitou, vous savez qu'il y a, à une lieue d'ici, deux endroits où vous êtes sûr d'être bien reçu, la hutte du père Clouis et la petite maison de Pitou. » Pitou appelait sa chambre et son cabinet une maison. « Merci, Pitou, » répondit Catherine, indiquant en même temps d'un signe de tête qu'elle accepterait l'un ou l'autre de ces deux asiles. Catherine rentra dans sa chambre sans s'inquiéter de Pitou, qui, lui, était toujours sûr de trouver un gîte. Le lendemain matin, dès 10 heures, les amis convoqués pour la funèbre cérémonie affluèrent à la ferme. Tous les fermiers des environs, ceux de Boursonne, de Noue, d'Ivor, de Coyolles, de Largny, d'Aramon et de Vivières, étaient au rendez-vous. Le maire de Villers-Cotterêts, le bon monsieur de Lompré, y était un des premiers. À 10h30, la garde nationale d'Aramon, tambour battant, drapeau déployé, arriva sans qu'il lui manquât un homme. Catherine, toute vêtue de noir, tenant entre ses bras son enfant, tout vêtu de noir comme elle, recevait chaque arrivant et, nul, il faut le dire, n'eut un autre sentiment que le respect pour cette mère et pour cet enfant vêtu d'un double deuil. À 11 heures, plus de 300 personnes étaient réunies à la ferme. Le prêtre, les hommes d'église, les porteurs manquaient seuls. On attendit un quart d'heure. Rien ne vint. Pitou monta dans le grenier le plus élevé de la ferme. De la fenêtre de la ferme, on découvrait les 2 kilomètres de plaine qui s'étendent de Villers-Cotterêts au petit village de Pisseleu. Si bons yeux qu'eut Pitou, il ne vit rien. Il descendit et fit part à monsieur de Lompré non seulement de ses observations, mais encore de ses réflexions. Ses observations étaient que rien ne venait certainement, ses réflexions que rien ne viendrait probablement. On lui avait raconté la visite de l'abbé Fortier et le refus de celui-ci d'administrer les sacrements à la mère Billot. Pitou connaissait l'abbé Fortier, il devina tout. L'abbé Fortier ne voulait pas prêter le concours de son saint ministère à l'enterrement de madame Billot, et le prétexte, non la cause, était l'absence de confession. Ces réflexions, communiquées par-pitout à monsieur de Lompré et par monsieur de Lompré aux assistants, produisirent une douloureuse impression. On se regarda en silence, puis une voix dit « Eh bien quoi, si l'abbé Fortier ne veut pas nous dire la messe, on s'en passera !» Cette voix, c'était celle de Désiré Maniquet. Désiré Maniquet était connu pour ses opinions anti-religieuses. Il y eut un instant de silence. Il était évident qu'il semblait bien hardi à l'assemblée de se passer de messe. Et cependant, on était en pleine école, Voltaire et Rousseau. « Messieurs, dit le maire, allons à Villers-Cotterêts. À Villers-Cotterêts, tout s'expliquera. »« À Villers-Cotterêts !» crièrent toutes les voix. Pitou fit un signe à quatre de ses hommes, on glissa les canons de deux fusils sous la bière et on enleva la morte. À la porte, le cercueil passa devant Catherine, agenouillée, et devant le petit Isidore qu'elle avait fait agenouiller près d'elle. Puis, le cercueil passé, Catherine baisa le seuil de cette porte où elle ne comptait plus remettre le pied, et en se relevant, « Vous me trouverez, dit-elle à Pitou, dans la hutte du père Clouis. » Et par la cour de la ferme et les jardins qui donnaient sur les fonds d'une rue, elle s'éloigna rapidement. Le convoi s'avançait silencieusement, formant une longue ligne sur la route, lorsque tout à coup, ceux qui fermaient la marche entendirent derrière eux un cri d'appel. Ils se retournèrent, un cavalier accourait au grand galop, venant du côté d'Ivor, c'est-à-dire par la route de Paris. Une portion de son visage était sillonnée par deux bandelettes noires. Il tenait son chapeau à la main et faisait signe qu'on l'attendît. Et puis tout se retourna comme les autres. « Tiens, dit-il, monsieur Billot, bon, je ne voudrais pas être dans la peau de l'abbé Fortier. » À ce nom de Billot, tout le monde fit halte. Le cavalier s'avançait rapidement, et au fur et à mesure qu'il avançait, comme Pitou avait reconnu le fermier, chacun à son tour le reconnaissait. Arrivé à la tête du convoi, Billot sauta à bas de son cheval, auquel il jeta la bride sur le cou, et, après avoir dit d'une voix si bien accentuée que chacun l'entendit « Bonjour et merci, citoyen », il prit, derrière le cercueil, la place de Pitou, qui, en son absence, conduisait le deuil. Un valet d'écurie se chargea du cheval et le reconduisit à la ferme. Chacun jeta un regard curieux sur Billot. Il avait maigri un peu, pâli beaucoup. Une partie de son front et les contours de son œil avaient conservé les couleurs violâtres du sang extravasé. Ses dents serrées, ses sourcils froncés indiquaient une sombre colère qui n'attendait que le moment de se répandre au dehors. « Savez-vous ce qui s'est passé ?» demanda Pitou. « Je sais tout, » répondit Billot. Aussitôt que Gilbert avait avoué au fermier l'état dans lequel se trouvait sa femme, celui-ci avait pris un cabriolet qu'il avait conduit jusqu'à Nanteuil. Puis, comme le cheval n'avait pas pu le mener plus loin, Billot, tout faible qu'il était encore, avait pris un bidet de poste. À Levignan, il avait relayé, et il arrivait à la ferme comme le convoi venait d'en sortir. En deux mots, alors, Madame Clément lui avait tout dit. Billot était remonté à cheval, et au détour du mur, il avait aperçu le convoi qui s'allongeait le long du chemin, et il l'avait arrêté par ses cris. Maintenant, ainsi que nous l'avons dit, c'était lui qui, les sourcils froncés, la bouche menaçante, les bras croisés sur la poitrine, conduisait le deuil. Déjà silencieux et sombre, le cortège devint plus sombre et plus silencieux encore. À l'entrée de Villers-Cotterêts, on trouva un groupe de personnes qui attendaient. Ce groupe prit sa place dans le cortège. À mesure que le convoi avançait à travers les rues, des hommes, des femmes, des enfants sortaient des maisons, saluaient Billot, qui leur répondait d'un signe de tête, et s'incorporaient dans les rangs en prenant place à la queue. Lorsque le convoi arriva sur la place, il comptait plus de 500 personnes. De la place, on commençait à apercevoir l'église. Ce qu'avait prévu Pitou arrivait. L'église était fermée. On arriva à la porte et l'on fit halte. Billot était devenu livide. L'expression de son visage se faisait de plus en plus menaçante. L'église et la mairie se touchaient. Le sergent, qui était en même temps concierge de la mairie et qui par conséquent dépendait à la fois du maire et de l'abbé Fortier, fut appelé et interrogé par monsieur de Lompré. L'abbé Fortier avait défendu à aucun homme d'église de prêter son concours à l'enterrement. Le maire demanda où étaient les clés de l'église. Les clés étaient chez le Bedeau. « Va chercher les clés, dit Billot à Pitou. » Pitou ouvrit le compas de ses longues jambes et revint 5 minutes après en disant « L'abbé Fortier a fait porter les clés chez lui pour être sûr que l'église ne serait point ouverte. »« Il faut aller chercher les clés chez l'abbé, » dit Désiré, Maniquet, promoteur né de tous les moyens extrêmes. « Oui, oui, allons chercher les clés chez l'abbé, » crièrent 200 voix. « Ce serait bien long, » dit Biot, « et quand la mort frappe à une porte, elle n'a pas l'habitude d'attendre. » Alors il regarda autour de lui. En face de l'église, on construisait une maison. Les ouvriers charpentiers écarissaient une poutre. Biot marcha droit à eux, leur fit signe de la main qu'il avait besoin de la poutre qu'ils écarissaient. Les ouvriers s'écartèrent. La poutre était posée sur des madriers. Biot passa son bras entre la poutre et la terre, à peu près vers le milieu de la pièce de bois, puis, d'un seul effort, il la souleva. Mais il avait compté sur des forces absentes. Sous ce poids énorme, le colosse chancela, et un instant on crut qu'il allait tomber. Ce fut le passage d'un éclair. Biot reprit son équilibre en souriant d'un sourire terrible, puis il s'avança, la poutre sous le bras, d'un pas lent mais ferme. On eût dit un de ces béliers antiques avec lesquels les Alexandres, les Hannibal et les Césars renversaient les murailles. Il se plaça, les jambes écartées, devant la porte, et la formidable machine commença à jouer. La porte était de chêne, les verrous, les serrures, les gonds étaient de fer. Au troisième coup, les verrous, les serrures et les gonds avaient sauté, la porte béait, entr'ouverte. Biot laissa tomber la poutre. 4 hommes la ramassèrent et la reportèrent avec peine à la place où Biot l'avait prise. « Maintenant, monsieur le maire, » dit Biot, « faites placer le cercueil de ma pauvre femme, qui n'a jamais fait de mal à personne, au milieu du cœur. Et toi, Pitou, réunis le bedeau, le suisse, les chantres et les enfants de cœur. Moi, je me charge du prêtre. » Le maire, conduisant le cercueil, entra dans l'église. Pitou se mit à la recherche des chantres, des enfants de cœur, du bedeau et du suisse, se faisant accompagner de son lieutenant, Désiré Maniquet, et de 4 hommes, pour le cas où il trouverait des récalcitrants. Biot se dirigea vers la maison de l'abbé Fortier. Plusieurs hommes voulurent suivre Biot. « Laissez-moi seul, » dit-il. « Peut-être ce que je vais faire deviendra-t-il grave, à chacun la responsabilité de ses œuvres. » Et il s'éloigna, descendant la rue de l'église et prenant la rue de Soissons. C'était la seconde fois, à 1 an de distance, que le fermier révolutionnaire allait se trouver en face du prêtre royaliste. On se rappelle ce qui s'était passé la première fois, probablement allait-on être témoin d'une semblable scène. Aussi, en le voyant marcher d'un pas rapide vers la demeure de l'abbé, chacun demeurait-il immobile sur le seuil de sa porte, le suivant des yeux en secouant la tête, mais sans faire un pas. « Il a défendu de le suivre, » se disaient les uns aux autres les spectateurs. La grande porte de l'abbé était fermée, comme celle de l'église. Biot regarda s'il y avait aux environs quelque bâtisse à laquelle il pût emprunter une nouvelle poutre. Il n'y avait qu'une espèce de borne de grès, déchaussée par l'oisiveté des enfants et tremblant dans son orbite comme une dent dans son alvéole. Le fermier s'avança vers la borne, la secoua violemment, élargit l'orbite et arracha la borne de l'encadrement de pavé où elle était emboîtée. Puis, la soulevant au-dessus de sa tête, comme un autre Ajax ou un autre Diomède, il recula de 3 pas et lança le bloc de granit avec la même force qu'eût fait une catapulte. La porte brisée vola en morceaux. En même temps que Biot se frayait ce formidable passage, la fenêtre du premier s'ouvrait, et l'abbé Fortier apparaissait, appelant de toutes ses forces ses paroissiens à son secours. Mais la voix du pasteur fut méconnue par le troupeau, bien décidé à laisser le loup et le berger se démêler ensemble. Il fallut un certain temps à Biot pour briser les 2 ou 3 portes qui le séparaient encore de l'abbé Fortier, comme il avait brisé la première. La chose lui prit 10 minutes à peu près. Aussi, au bout de 10 minutes écoulées, après la première porte brisée, put-on, d'après les cris de plus en plus violents et d'après les gestes de plus en plus expressifs de l'abbé, comprendre que cette agitation croissante venait de ce que le danger se rapprochait de plus en plus de lui. En effet, tout à coup, on vit apparaître derrière le prêtre la tête pâle de Biot, puis une main s'étendre et s'abaisser puissamment sur son épaule. Le prêtre se cramponna à la traverse de bois qui servait d'appui à la fenêtre. Il était lui aussi d'une force proverbiale, et ce n'eût pas été chose facile à Hercule lui-même de lui faire lâcher prise. Biot passa son bras comme une ceinture autour de la taille du prêtre, s'arc-bouta sur ses deux jambes, et d'une secousse à déraciner un chêne, il arracha l'abbé Fortier à la traverse de bois brisée entre ses mains. Le fermier et le prêtre disparurent dans les profondeurs de la chambre, et l'on n'entendit plus que les cris de l'abbé qui allaient s'éloignant comme le mugissement d'un taureau qu'un lion de l'Atlas entraîne vers son repaire. Pendant ce temps, Pitou avait ramené, tremblant, Chantre, Enfant de cœur, Bedeau et Suisse. Tout cela, à l'image du sergent concierge, s'était hâté de revêtir d'abord chapes et surplis, puis d'allumer les cierges et de préparer toutes choses pour la messe des morts. On en était là quand on vit reparaître, par la petite sortie donnant sur la place du château, Biot, que l'on attendait à la grande porte de la rue de Soissons. Il traînait après lui le prêtre, et cela malgré sa résistance, d'un pas aussi rapide que s'il eût marché seul. Ce n'était plus un homme, c'était une des forces de la nature, quelque chose comme un torrent ou une avalanche. Rien d'humain ne semblait capable de lui résister, il eût fallu un élément pour lutter contre lui. Le pauvre abbé, à 100 pas de l'église, cessa de résister. Il était complètement dompté. Tout le monde s'écarta pour laisser passer ces deux hommes. L'abbé jeta un regard effaré sur la porte brisée comme un carreau de verre et, voyant à leur place leur instrument, leur hallebarde ou leur livre à la main, tous ces hommes à qui il avait défendu de mettre le pied dans l'église, il secoua la tête comme s'il eût reconnu que quelque chose de puissant, d'irrésistible pesait non pas sur la religion mais sur ses ministres. Il entra dans la sacristie et en sortit un instant après en costume d'officiant et le Saint-Sacrement à la main. Mais au moment où, après avoir monté les marches de l'autel et déposé le Saint-Ciboire sur la table sainte, il se retournait pour dire les premières paroles de l'office, Biot étendit la main. « Assez, mauvais serviteur de Dieu, dit-il, j'ai tenté de courber ton orgueil, voilà tout, mais je veux qu'on sache qu'une sainte femme comme la mienne peut se passer des prières d'un prêtre fanatique et haineux comme toi. » Puis, comme une grande rumeur montait sous les voûtes de l'église à la suite de ces paroles, « S'il y a un sacrilège, dit-il, que ce sacrilège retombe sur moi. » Et, se tournant vers l'immense cortège qui emplissait non seulement l'église, mais encore la place de la mairie et celle du château, « Citoyens, dit-il, au cimetière !» Toutes les voix répétèrent « Au cimetière !» Les quatre porteurs alors passèrent de nouveau les canons de leurs fusils sous le cercueil, enlevèrent le corps, et comme ils étaient venus, sans prêtre, sans chant d'église, sans aucune des pompes funèbres dont la religion a l'habitude de faire escorte à la douleur des hommes, ils s'acheminèrent, Biot conduisant le deuil, 600 personnes suivant le convoi vers le cimetière, situé, on s'en souvient, au bout de la ruelle du Pleu, à 25 pas de la maison de Tante Angélique. La porte du cimetière était fermée, comme celle de l'abbé Fortier, comme celle de l'église. Là, chose étrange, devant ce faible obstacle, Biot s'arrêta. La mort respectait les morts. Sur un signe du fermier, Pitou courut chez le fossoyeur. Le fossoyeur avait la clé du cimetière, c'était trop juste. 5 minutes après, Pitou rapportait non seulement la clé, mais encore 2 bêches. L'abbé Fortier avait proscrit la pauvre morte et de l'église et de la terre sainte. Le fossoyeur avait reçu l'ordre de ne point creuser la tombe. À cette dernière manifestation de la haine du prêtre contre le fermier, quelque chose de pareil à un frisson de menace courut parmi les assistants. S'il y eut eu dans le cœur de Biot le quart du fiel qui entre dans l'âme des dévots et qui avait l'air d'étonner Boileau, Biot n'aurait qu'un mot à dire, et l'abbé Fortier avait enfin la satisfaction de ce martyr qu'il avait appelé à grands cris le jour où il avait refusé de dire la messe sur l'autel de la patrie. Mais Biot avait la colère du peuple et du lion, il déchirait, broyait, brisait en passant, mais ne revenait pas sur ses pas. Il fit un signe de remerciement à Pitou, dont il comprit l'intention, prit la clé de ses mains, ouvrit la porte, fit passer le cercueil d'abord, le suivit, et fut lui-même suivi du cortège funéraire qui s'était recruté de tout ce qui pouvait marcher. Les royalistes et les dévots étaient seuls restés chez eux. Il va sans dire que tante Angélique, qui était de ces derniers, avait fermé sa porte avec terreur en criant à l'abomination de la désolation et en appelant les foudres célestes sur la tête de son neveu. Mais tout ce qui avait un bon cœur, un sens droit, l'amour de la famille, tout ce que révoltait la haine substituée à la miséricorde, la vengeance et la mansuétude, les trois quarts enfin de la ville étaient là, protestant non pas contre Dieu, non pas contre la religion, mais contre les prêtres et leur fanatisme. Arrivé à l'endroit où aurait dû être la tombe et où le fossoyeur, ignorant qu'il recevrait l'ordre de ne point le creuser, avait déjà marqué la place, Billot tendit la main à Pitou et lui donna une de ses deux bêches. Alors Billot et Pitou, la tête découverte, au milieu d'un cercle de citoyens, la tête découverte comme eux, sous le soleil dévorant des derniers jours de juillet, se mirent à creuser la tombe de la malheureuse créature qui, pieuse et résignée entre toutes, eût été bien étonnée si, de son vivant, on lui eût dit de quel scandale elle serait cause après sa mort. Le travail dura une heure, et ni l'un ni l'autre des deux travailleurs n'eut l'idée de se relever avant qu'il fût fini. Pendant ce temps, on avait été chercher des cordes, et le travail achevé, les cordes étaient prêtes. Ce furent encore Billot et Pitou qui descendirent le cercueil dans la fosse. Ces deux hommes rendaient si simplement et si naturellement ce devoir suprême à celle qui l'attendait, qu'aucun des assistants n'eut l'idée de leur offrir son aide. On eût regardé comme un sacrilège de ne pas les laisser faire jusqu'au bout. Seulement, aux premières pelletées de terre qui retentirent sur la bière de chêne, Billot passa sa main sur ses yeux et Pitou sa manche. Et puis ils se mirent à repousser résolument la terre. Quand ce fut fini, Billot jeta loin de lui sa bêche et tendit ses deux bras à Pitou. Pitou se jeta sur la poitrine du fermier. Dieu m'est témoin, dit Billot, que j'embrasse en toi tout ce qu'il y a des vertus simples et grandes de la terre, la charité, le dévouement, l'abnégation, la fraternité, et que je dévouerai ma vie au triomphe de ces vertus. Puis, étendant la main sur la tombe, Dieu m'est témoin, dit-il encore, que je jure une guerre éternelle au roi qui m'a fait assassiner, aux nobles qui ont déshonoré ma fille, aux prêtres qui ont refusé la sépulture à ma femme. » Et se retournant vers les spectateurs pleins de sympathie pour cette triple adjuration, « Frère, dit Billot, une nouvelle assemblée va être convoquée à la place des traîtres qui siègent à cette heure au feuillant. Choisissez-moi pour représentant à cette assemblée, et vous verrez si je sais tenir mes serments. » Un cri d'adhésion universelle répondit à la proposition de Billot, et dès cette heure, sur la tombe de sa femme, terrible autel, digne du serment terrible qu'il venait de recevoir, la candidature de Billot à l'assemblée législative fut posée. Après quoi, Billot, ayant remercié ses compatriotes de la sympathie qu'il venait de lui montrer dans son amitié et dans sa haine, chacun, citoyen ou paysan, se retira chez soi, emportant dans son cœur cet esprit de propagande révolutionnaire à qui fournissait, dans leur aveuglement, ses armes les plus mortelles, ceux-là même, rois, nobles et prêtres, ceux-là même qu'il devait dévorer.